Bonjour et bienvenue à cette émission de la série « Croire d'hier à demain », réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. C'est Francine Robert au microphone, en remplacement temporaire de Christine Cossette. J'ai eu le grand plaisir de recevoir aujourd'hui une collègue, Sylvie Latreille, qui est professeure en ecclésiologie à l'Institut de pastoral. Être professeure en ecclésiologie, ça veut dire s'intéresser bien sûr à l'Église, mais aussi à tout ce qui concerne le leadership, le partenariat, les ministères, le travail d'équipe en Église, le bénévolat et bien d'autres aspects. Elle va nous entretenir plus spécialement aujourd'hui de l'expérience des laïcs qui travaillent en pastoral. Alors, vous, comme moi, en avons rencontré de ces femmes et parfois quelques hommes à l'Église le dimanche ou en pastoral du baptême, ou dans d'autres domaines, donc des laïcs qui font un travail de pastoral. Et il y a des bénévoles, mais là, on parle de gens qui sont mandatés et rémunérés pour faire de la pastorale. Ce super beau dossier, ça c'est mon opinion, ce super beau dossier, Sylvie va l'explorer avec nous et va essayer de nous dire à la fois ce qui s'est passé dans ce domaine et où nous en sommes actuellement. Bonjour.
Oui, bonjour Francine.
Merci d'être présente à cette émission, Sylvie. Une des raisons pour lesquelles on a pensé que ce serait bien de faire cette émission, c'est qu'il y a eu un événement important cet automne, un colloque de niveau provincial qui rassemblait des agents et des agentes. Et vous étiez là comme conférencière, je crois.
Effectivement, au mois d'octobre 2010, il y a eu ce vaste rassemblement des agents et agentes laïques de pastoral du Québec. Et ce fut tout un événement qui rappelait un premier rassemblement qui avait eu lieu en 1990. Incident qu'il y avait des personnes qui se retrouvaient encore ensemble et avec beaucoup de nouvelles personnes aussi qui, depuis ces 20 dernières années, étaient aussi partie prenante en pastorale. Un rassemblement qui a été un événement important. Et lors de cet événement, il a été question, justement, de la situation des agents et des agentes de pastoral au Québec. Le thème de la rencontre, c'était « Entre don et passion, un rendez-vous ». Ça montre bien sur quel horizon s'est déroulée la rencontre, oui, entre alors, le don et la passion.
Donc, le don au sens de ce qui a été donné, ce qui est donné par ces gens-là.
Ce qui est donné aux communautés chrétiennes, par l'action
eux,
de ces personnes, exactement.
Et la passion qui anime ces personnes?
C'est la passion qui anime ces personnes, qui leur permettent souvent de durer en pastorale pendant de longues années. Et cette passion, elle était palpable lors du grand rassemblement. Ne serait-ce que la joie de se retrouver, ça venait de tous les diocèses du Québec, 18 diocèses du Québec.
Et combien de personnes?
À peu près 380 personnes qui étaient déléguées par leurs églises locales, par leurs diocèses.
Bon, elles avaient donc été choisies, c'était pas tout le monde.
Chaque diocèse était invité à déléguer des personnes et c'était de manière proportionnelle à la grandeur et naturellement à la population des différents diocèses. Quelques évêques aussi ont participé à ce rassemblement. Pourquoi quelques évêques? C'est tout simplement que les autres étaient à Rome, parce que c'était la canonisation du frère André. À ce moment-là, alors nous avons eu la présence de 7 ou 8 évêques qui ont été partie prenante aussi de ce rassemblement provincial qui a eu lieu au mois d'octobre.
D'accord. Donc, un grand rassemblement qui fait le point après 20 ans. Ça veut dire que les gens avaient besoin de voir d'où ils venaient. Je dis « ils », c'est toujours le masculin inclusif. Mais probablement qu'on devrait dire « elle », ça doit être presque rien que des femmes.
Étonnamment, j'ai été surprise. Je peux vous dire qu'il y avait au moins 50 d'hommes qui sont engagés dans la pastorale au Québec, 380.
Donc, les gens étaient là, vous me disiez, pour se donner du souffle, garder, de l'espérance, parce que l'Église au Québec, en tout cas, traverse une période difficile. Je présume que ça doit être difficile pour ces gens-là aussi.
L'idée du rassemblement, elle est venue de la base. Ce sont des personnes qui ont manifesté le désir que cet événement-là puisse avoir lieu. L'importance de se retrouver ensemble Étant donné qu'en 1990, vraiment, ce rassemblement-là avait porté fruit, comme vous le soulignez, effectivement, se retrouver ensemble d'abord pour essayer de voir comment est-ce que la vie s'est passée depuis tant d'années,
oui.
Être capable de se donner du souffle, hein? Mais ce souffle-là, par ailleurs, c'est important de souligner comment est-ce que c'est le souffle de l'esprit, là. C'est pas juste le souffle des agents et agentes laïques de pastorale.
Ouais.
Être capable aussi ensemble de retoucher à l'espérance qui permet de continuer, de voir les belles choses aussi qui ont été faites depuis tant d'années. Mm-hmm. Et aussi, c'est une manière de célébrer. De célébrer la vie, mais de célébrer aussi tout ce qui se fait de beau et de grand en pastorale. Dans chacune de ces vies, de ces personnes qui consacrent beaucoup, beaucoup de leur temps et de ce qu'elles sont à l'activité pastorale.
Bien sûr, c'est extrêmement exigeant. Je le vois avec les horaires de travail de mes étudiantes à l'Institut. On sait ce que c'est.
Exactement. Et en conséquence, d'être aussi ensemble pour partager à la fois les misères, les difficultés, les défis, et d'entendre que ce qui se passe dans tel diocèse, ça se passe aussi dans l'autre diocèse, et de reconnaître chez les uns et les autres les expériences qui sont à partager, il y a là une solidarité qui aide énormément les personnes et la joie de se retrouver.
Ben, tant mieux. Et vous étiez donc invitée comme conférencière à ce colloque.
Oui, ça a été vraiment un privilège pour moi que d'être présente à cet événement-là. J'y étais en 1990, mais pas au même titre, ce qui fait que j'avais l'impression finalement de cueillir ce qui s'est passé pendant toutes ces années, les nombreux déplacements qu'il y a pu y avoir aussi pour les agents et les agentes de pastorale laïque du Québec. L'autre chose aussi, en se retrouvant, c'était d'être capable de se raconter l'histoire des agentes pastorales au Québec.
Des 20 dernières années?
Des 40 dernières années,
effectivement. Ça fait déjà 40 ans, ça ne nous rajeunit pas.
Et peut-être plus dans certains diocèses, dépendamment des diocèses, mais effectivement, c'est au moins 40 ans.
Certainement, j'ai été embauchée en 1969 en pastorale scolaire. On est en 2011, alors vous voyez, c'est 40 ans, c'est
ça. Exactement.
Ce qui serait intéressant, Sylvie, pour, je crois bien, l'ensemble de nos auditeurs, ce serait qu'on fasse une sorte de survol de ces 40 années, parce que on est presque habitué à voir des femmes et quelques hommes laïcs impliqués en pastoral, mais finalement, c'est nouveau, c'est d'une nouveauté extraordinaire. C'est tout récent, 40 ans dans l'histoire de l'Église. Et donc, ce serait bien qu'on retrouve, je dirais, la fraîcheur de cette nouveauté. Ça, il me semble que ça dynamiserait un peu notre aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous faire ça,
oui,
un survol de 40 ans?
Tout à fait. On va le faire en quelques minutes, mais quand même, c'est 40 ans. Hein? Alors, c'est vraiment dans les années 70. Les années 70 ont été témoins, je dirais, de l'arrivée des laïcs en pastorale, majoritairement des femmes, comme vous l'avez souligné, et c'était particulièrement dans l'animation pastorale scolaire et paroissiale. Puis il y a des circonstances historiques qui ont permis cette entrée de ces femmes en pastorale.
Mmh.
Voyez-vous, d'une
le
part...
Pas le manque de prêtres, c'était pas encore tout à fait ça dans les années 70.
Savez-vous, Francine, souvent, c'est le premier argument ou premier facteur qu'on va évoquer. La diminution des prêtres. Moi, j'aimerais pouvoir réaligner une chose qui m'apparaît importante, à savoir qu'il y avait encore tout ce souffle de Vatican II.
Ah oui.
Nous sommes pas loin de la fin du Concile de Vatican II, qui s'est terminé en 1965. Et ce souffle du Concile où on a justement réfléchi sur la place des laïcs et l'importance du baptême. Le baptême comme étant ce premier lieu d'engagement. Au nom de notre baptême, des hommes et des femmes, les chrétiens, nous sommes engagés personnellement à témoigner de Jésus-Christ, de l'annoncer, de le célébrer.
Vous me rappelez une expression, le sacerdoce baptismal qu'on utilisait
abondamment
dans les années 70.
Alors, vous savez, comme c'était pas loin après le Concile, il y a aussi ces conditions favorables à ce que des hommes et des femmes puissent être même appelés à entrer en pastorat.
Oui.
Et ça a été l'histoire de nombreuses personnes.
Et à ce moment-là, on pourrait peut-être dire aussi que le Concile proposait une autre image de l'Église.
Le concile proposait différentes images de l'Église, dont celle du peuple de Dieu. Le chapitre 2 de la Constitution de Numen Gentium, ce vaste peuple de Dieu, où chacun et chacune d'entre nous, au nom même de notre baptême, faisons partie de ce vaste peuple de Dieu. Alors, c'est sûr qu'avec une ecclésiologie de la sorte, il y a un courant qui soutient cette action pastorale qui va être aussi encouragée par des circonstances historiques, dont la diminution des prêtres.
Oui, je vois. Alors là, vous me dites, l'ecclésiologie dominante à partir de Vatican II, c'est l'Église peuple de Dieu.
Dans les années 70.
D'accord. Et donc, même si on employait, et malheureusement, on continue d'employer trop souvent le mot Église pour désigner uniquement le magistère, on va dire l'Église est contre ceci, l'Église... En fait, on parle seulement du magistère.
Exactement.
Alors, que ce que vous me dites, c'est que l'Église... ce que vous me rappelez, c'est que l'Église, c'est vous, moi... c'est les gens qui nous écoutent, c'est le peuple de Dieu d'abord.
C'est le peuple de Dieu et l'ecclésiologie du peuple de Dieu nous montre bien que ce peuple, il est de Dieu. Il n'est à personne qu'à Dieu.
D'accord.
C'est Dieu qui appelle, qui convoque son peuple.
OK, un dernier mot sur Vatican II. Ça a peut-être non seulement proposé une nouvelle ecclésiologie, mais je me demande si l'enthousiasme qui a été généré par Vatican II n'a pas été aussi ce qui a donné envie à plein de gens de s'impliquer. Des gens qui avaient tout à coup envie de s'engager dans cette Église-là et d'y travailler.
Effectivement. Et vous savez, les religieuses avaient vraiment ouvert les portes. Dans les années 70, beaucoup de religieuses étaient impliquées en pastorale, dans le milieu paroissial, entre autres.
Oui, en effet.
La pastorale scolaire, là, on retrouvait des mamans. Des jeunes mamans qui avaient souvent accompagné leurs enfants dans la préparation à la première communion ou à la confirmation, et elles faisaient chemin avec leurs enfants. Oui. Et à un moment donné, elles étaient interpellées, appelées souvent par Monsieur le curé, à se joindre à l'équipe pastorale. Et ce sont ces femmes que nous avons retrouvées dans les écoles au Québec. D'autant plus aussi que ces femmes découvraient avec leurs enfants l'importance de la relation à Jésus.
Ah oui, oui, une spiritualité personnelle.
Tout à fait. Cette rencontre avec le Christ dans une relation personnelle a donné le goût à tant de laïcs de se former. En même temps, ce sont les facultés de théologie aussi qui s'en vont dans les diocèses.
C'était les belles années à la faculté de théologie. Les classes étaient pleines, je peux en témoigner. Il y avait toutes sortes de gens qui suivaient des cours en théologie.
Dont ces personnes qui avaient commencé en pastorale et qui, justement, avaient creusé ce désir de mieux connaître leur relation au Christ. C'est intéressant parce que ça devient une motivation.
Alors, le vrai changement, le vrai tournant, ce sont les années 70.
Ça a été l'entrée, effectivement, mais l'entrée massive des laïcs en pastorale sera les années 80.
D'accord. Juste une anecdote de transition. Vers la fin des années 70, à Saint-Jean-Longueuil, où je travaillais en pastorale au secondaire, les journées diocésaines, vous savez, tous les diocèses... font des journées où ils offrent une formation sur un thème particulier ou une priorité diocésaine aux intervenants pastoraux. Et d'année en année, on était plus nombreuses, les femmes. Ça s'appelait toujours, Sylvie, les journées presbytérales. Et un jour, Mgr Coderre a décidé que désormais, ça s'appellerait les journées pastorales. Et ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'avoir officiellement ma place dans cette grande équipe de gens qui avaient charge pastorale dans l'Église.
Cela me fait dire, avec joie aussi, combien ce sont des évêques dans les années 70 qui ont eu l'audace d'aller chercher et de mandater des femmes en pastorale. Et nous avons des figures qui ont été inspirantes.
Certainement.
Et qui ont continué durant tout leur ministère, même une fois qu'ils ont été évêques émérites, à soutenir des femmes et des hommes dans leur formation en théologie et de vouloir que ces personnes-là adviennent comme adultes, et dans la foi et comme responsable dans l'Église.
Certainement. Mgr Coderre est un homme qui avait une énorme confiance dans la qualité des gens et dans l'Esprit Saint qui travaillait à travers ces gens-là. C'est
Tout
un homme
fait.
D'une grande confiance.
Oui. Alors, on peut en nommer plusieurs, et je suis certaine que les auditeurs, les auditrices, il y a des noms qui leur viennent à l'esprit de ces évêques qui ont été des pionniers
oui.
du 20e siècle, parce qu'il y en a eu d'autres pionniers dans les siècles précédents
oui.
par rapport à la place des laïcs dans l'Église. Mais ces personnes-là, elles ont initié quelque chose de neuf.
Donc, ça commence dans les années 70. Avant, il n'y avait jamais eu de laïcs impliqués en pastoral.
Là, si vous me permettez... Je pense qu'il y a des nuances.
Disons, depuis les premiers chrétiens, hein, parce
admettons,
que dans les communautés chrétiennes, au début, il n'y avait pas de prêtres.
Oui, il y a toujours eu des laïcs en Église.
Oui.
Tout au cours de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des laïcs qui ont été engagés. Le phénomène qui se passe, je dirais, au Québec dans les années 70, c'est l'institutionnalisation qui va se mettre en,
oui.
en forme.
D'accord.
Ça, c'est autre chose. Il y a un corps social qui prend forme, voyez-vous. Mais dans les années précédentes, vous parliez du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Moi, je suis de l'église locale de Saint-Jérôme,
oui,
du diocèse de Saint-Jérôme.
Dans laquelle vous avez travaillé plusieurs années à temps plein.
Effectivement,
aussi.
Et qui demeure mon premier amour. Mais dans les années 50, l'évêque fondateur hein, du diocèse de Saint-Jérôme, Monseigneur Frenet, qui était un homme avant-gardiste, qui avait été en Europe aussi, pour aller voir ce qui se passait dans les églises européennes et qui est revenu avec la grande mission au Québec à la fin des années 50. Ce que je veux dire, c'est que dans les années 50, il a confié de lourdes responsabilités à une femme qui est toujours vivante aujourd'hui,
oui.
qui est dans les 80 ans, une personne à qui a été confiée de grandes responsabilités. Mais son nom n'apparaissait pas dans le bottin diocésain.
Évidemment, il n'y avait que les prêtres dans
à l'époque. Alors, on n'est même pas à Vatican II encore.
D'accord.
Mais déjà, on pressent, hein, il y a un changement.
Oui.
Et ce qui est arrivé à Saint-Jérôme, peut-être qu'il est arrivé aussi dans d'autres diocèses. Tout ce travail souterrain, des hommes et des femmes qui ont toujours été à travers le bénévolat ou quoi que ce soit, mais là, on parle là, d'une institutionnalisation qui va prendre forme.
D'accord. Donc, vive les années 70 et rendons hommage aux exceptions qui ont précédé les années 70. Les années 80. Alors, ce sont les belles années, je pense. En tout cas, il y avait beaucoup de laïcs, là.
Les années 80, c'est vraiment l'arrivée massive des laïcs en pastoral. Et là, on pourrait dire que l'Église a changé de visage.
Oui.
Il s'est beaucoup conjugué et vu au féminin, effectivement. Et non seulement dans les églises locales, dans les paroisses, aussi encore dans les écoles au début des années 80, de cette manière marquante, mais aussi dans les facultés de théologie.
Ah oui.
Hein, ça va de pair. Donc, des personnes qui sont de plus en plus en pastoral, qui vont se chercher une formation universitaire en théologie.
Parce qu'on ne s'improvise pas agent de pastoral. Il y a des gens qui pensent ça, vous savez, Sylvie, qu'une personne laïque, généreuse, très croyante, donc elle va faire la pastorale. C'est vrai que ce sont des personnes laïques, généreuses et très croyantes, mais ça ne suffit pas. Hein.
Habituellement, quand on va parler des agents et agentes de pastorale laïque au Québec, nous parlons des personnes à qui a été confié un mandat émis par l'évêque du lieu, des personnes à qui la responsabilité attribuée, confiée, elles en sont responsables. Elles ont à répondre de cette mission qui leur est confiée.
Oui.
Et elles travaillent dans des équipes avec des personnes qui ont aussi été mandatées par l'évêque.
Et donc, ces personnes-là, on exige d'elles une certaine formation, vous disiez, de niveau universitaire, bien
dépendamment
sûr.
Des diocèses, oui. encore aujourd'hui.
Oui.
Mais si on se replace en 1980, effectivement, et il y avait les études collégiales, qui, à l'époque, avec Marie-Victorin,
ah oui.
entre autres. Alors, cette formation collégiale, écoutez, elle a été vraiment éducatrice de la foi et elle a aidé des adultes, justement, à commencer à trouver les mots pour dire leur foi,
oui.
à commencer à réfléchir au niveau théologie
bien
et pastoral.
Sûr. Et à découvrir la Bible, l'histoire de l'Église.
Exactement. Allait de pair la pratique
et la formation
et la formation académique. Et cette responsabilité réelle, elle a été en pastorale sociale, carcérale, hospitalière, jeunesse, la pastorale familiale, liturgique, scolaire, diocésaine. Voyez-vous, là, le champ s'élargit. Alors là, ce n'est plus étonnant qu'à la fin des années 80, nous puissions voir ces agents et agentes de pastorale laïque à qui étaient confiées de vraies responsabilités. Et là viennent en même temps les mandats pastoraux, hein, la rémunération. Et il va avoir la mise sur pied du comité des ministères à l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, la mise sur pied du réseau Femmes et ministères. Et en même temps que toute cette effervescence et, je dirais, ce déploiement se fait, arrive aussi le temps des résistances.
Ah bon?
Arrive des résistances. Ça ne peut pas faire autrement aussi. Nous sommes dans un changement de paramètres et à partir du moment où ce nouveau modèle d'Église, hein, cette ecclésiologie de co-responsabilité, cette ecclésiologie d'une Église tout entière ministérielle, se met en œuvre et elle devient en rapport avec une autre ecclésiologie que nous avons connue, vous et moi. On se souvient comment est-ce que ça a été dans les paroisses, c'était monsieur le curé, les vicaires, ça fait partie de l'histoire de l'Église du Québec.
Bien sûr, les laïcs, c'était le bédeau ou le sacristain,
les,
ou
marguilliers,
les enfants de cœur.
Les marguilliers, les bénévoles.
Et, voilà que un corps social. Femmes en avant dans l'Église, oui. Etc. Donc, vous dites que les années 80 sont à la fois des années de consolidation, d'institutionnalisation, où on définit ce que sera un mandat émis par un évêque, à quelles conditions, etc.
Exactement.
Ça veut dire que, d'une certaine manière, l'épiscopat prenait acte d'une réalité qu'il considérait comme allant durer. Hein? Quand on se donne la peine d'institutionnaliser les choses, c'est pas juste la petite solution temporaire en attendant de...
Une chose est certaine, après 30 ans de recul face aux années 80, là, c'est quand même 30 ans de recul, je pense que nous pouvons affirmer qu'à l'époque, les évêques qui étaient en poste, à qui était confiée cette portion du peuple de Dieu, sont allés vers ce mouvement et l'ont encouragé.
D'accord.
Ils l'ont encouragé. On se posait pas la question, Francine. Vous y étiez? J'y étais. Je suis arrivée en pastorale en 1981, même en 1979, ça se posait pas comme question.
Non, ça allait de soi.
Il y avait un quelque chose qui était propice, oui. Et les facteurs contribuaient à cette mise en œuvre.
On considérait que dorénavant, ce serait cela l'Église.
Nous étions dans cette foulée.
Et d'ailleurs, lors de leur visite ad limina à Rome, les évêques arrivaient avec des opinions assez solides, en tout cas, sur la présence des laïcs
et la pertinence des laïcs de cette manière-là dans l'Église. Mais à l'époque, je dirais, ça créait des tensions à tous les niveaux. Dans les paroisses aussi, ça créait des tensions.
Oui, il y a des gens qui trouvaient que ça allait pas. Hein.
C'était tellement un grand changement de paramètres. Peut-être je vais vous faire sourire. Moi, je me souviens, maman, elle avait un oncle curé. Monsieur le curé est décédé en 1955. Quand j'ai commencé mes études en théologie, quand tout le monde autour de moi a vu que c'était sérieux du fait que je sois en pastorale, parce qu'au début, on se demandait c'était quoi mon problème, maman me disait avec beaucoup d'humour, je sais pas ce que dirait mon oncle curé aujourd'hui, hein, de savoir que son arrière-petite-nièce est agente de pastorale puis elle étudie en théologie. Et il était décédé en 1955.
Ouais.
On voit bien le changement. Hein?
Oui.
Il y a quelque chose qui apparaît,
oui.
Qui se structure et qui, c'est sûr, qui va déstabiliser bien
bien des bons chrétiens. Et une partie, probablement, du clergé aussi, qui se demandait si ça allait pas faire de l'ombre.
Et je dirais que ça déstabilisait même les propres agents de pastorale de se retrouver.
Oui, mais là, nous, on avait l'enthousiasme à ce moment-là, Sylvie. Alors ça, ça aide. On peut vivre des déstabilisations quand on est enthousiaste.
Il y a eu des ajustements à faire.
J'ai vaguement souvenir là-dessus qu'il y avait des grands débats sur le besoin de redéfinir le ministère presbytéral.
Effectivement. Ça ne peut pas faire autrement.
C'était une soirée à discuter.
Ça ne peut pas faire autrement. Il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de réflexions en théologie, que ce soit à Montréal, Québec, partout à travers le Québec, dans les universités. Comme je disais tout à l'heure, ça a créé une résistance, mais en même temps, ça se faisait à la fois sur le terrain et dans la réflexion,
tout à fait.
Dans l'académique. Et il y avait ce désir aussi que les choses puissent prendre forme et que ça puisse avancer.
Ouais. Et c'est normal, finalement, que ça ait soulevé plusieurs questions et des résistances. Comme vous dites, on ne doit pas oublier que les prêtres ont été formés comme des hommes à tout faire. Et alors, se retrouver avec des gens qui développent des compétences spécifiques dans des domaines particuliers, ça peut être enthousiasmant pour certains, mais pour d'autres, ça devait être un peu inquiétant.
Vous soulevez un point qui est tellement important, la formation. comme vous dites, la formation que ces hommes, en 1980, avaient reçue dans les années 40, 50, et ces laïcs qui arrivent en masse, et avec toute une nouvelle théologie, avec toute une nouvelle manière de voir les choses, toutes les études qui avaient été faites, vous savez aussi bien, Francine, que ce soit toute l'exégèse, tout ce qui s'était passé dans la Bible, tout ce qui s'était passé aussi au niveau de la théologie fondamentale,
oui.
Et cette nouvelle sphère qu'on appelle la théologie pastorale, la théologie pratique.
Oui, et la théologie de la libération,
de la
qui
libération,
était très populaire dans ces années-là.
Alors, on peut comprendre que ces différentes ecclésiologies,
oui,
puissent entrer en tension,
oui,
sur le
c'est
terrain et aussi dans dans la réflexion.
Il n'y a pas de grand changement sans provoquer ce genre de déstabilisation-là. Et il faut bien dire à la décharge de l'Église ici que ce même problème se pose dans beaucoup de grandes institutions lorsqu'il y a l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, dans toutes sortes de domaines.
Ça s'est vécu,
oui,
effectivement, et je dirais ça continue à se vivre aussi,
d'accord,
dépendamment des chasses gardées.
Sylvie, on a couvert 20 ans,
oui,
donc la moitié de notre cours historique. Vous avez une musique à nous faire écouter qui vient, je crois,
du Rassemblement provincial.
Oui.
Alors, c'est à la fois musique, paroles, qui sont l'œuvre de M. Guy Lebel, qui est un artiste du diocèse de Nicolet. Le chant-thème du Rassemblement, effectivement, c'est lui qui l'a créé, et c'est ce que nous allons entendre.
Merci. Vous nous présentiez donc un survol historique. On a couvert 20 ans d'une courte histoire de 40 ans de la présence des laïcs en pastorale, paroissiale et autres. Nous arrivons en 1990.
Alors, les années 90, elles ont été témoins, je dirais, de la diversité et de l'articulation des ministères. Il y a eu beaucoup d'expériences au niveau des partenariats. C'est en 1990 et dans ces années-là que le partenariat devient une modalité de fonctionnement qui porte fruit aussi. C'est aussi l'exercice du leadership qui va être partagé dans les différents comités, dans les différents groupes et je dirais dans les équipes pastorales aussi, autant dans les niveaux diocésains que dans les niveaux paroissiaux. Et on va voir la même chose dans ce qu'on appelle la pastorale sectorielle, c'est-à-dire dans les milieux de la pastorale du baptême, de la pastorale auprès des personnes âgées, des personnes malades. Voyez-vous, tous ces groupes se mettent en forme. D'où l'importance aussi de l'aménagement du leadership et de l'exercice du leadership face à cette manière de procéder.
Vous avez dit équipe pastorale.
Des équipes.
Ça veut dire qu'on n'en est plus à l'époque où il y a une personne laïque qui donne un coup de main à la pastorale d'ensemble gérée par le curé. On est déjà
c'est
à
la
une
mise
époque
en forme.
Où, oui,
les années 90, oui.
Les communautés chrétiennes ont besoin de services multiples. Il y a une diversité des fonctions et les gens qui assument ces fonctions-là font équipe au service de la communauté chrétienne.
Effectivement. Puis regardez, déjà, on s'aperçoit, je reviens souvent à la formation, faut dire, c'est un peu mon dada, tout comme le vôtre. Mais déjà dans formation, c'est intéressant parce que sur les bancs de l'université ou ceux du collégial, déjà étaient assis ensemble. Hein. Non seulement des hommes et des femmes laïcs, mais des personnes qui se préparaient aussi à l'exercice de différents ministères. Vous vous souvenez peut-être, même dans les années 80, à l'Université de Montréal, où nous avons été toutes les deux étudiantes, il y avait dans nos cours des futurs prêtres des diocèses environnants de Montréal. Quand on parle du travail d'équipe, qui va prendre forme de plus en plus dans les années 90, souvent c'était des personnes qui avaient été formées ensemble. Cela aussi se place dans une ecclésiologie, celle de la co-responsabilité. En même temps, nous pressentons que l'aménagement et le réaménagement pastoraux, à partir de la deuxième moitié des années 90, va commencer à prendre forme. C'est-à-dire qu'on va réfléchir dans les différents milieux pour voir comment vont se réorganiser, réaménager pastoralement les paroisses. En conséquence, les laïcs sont là aussi les agents, oui. Les agentes de pastoral.
Et il faut réaménager les paroisses, faut-il le rappeler, parce que les gens vont de moins en moins à l'église. C'est très curieux qu'au moment où la présence des laïcs au service de l'Évangile augmente dans l'Église, les années 80-90, c'est aussi la période où diminuent, disons, les pratiquants ordinaires. C'est pas correct de le dire comme ça, mais comment une Église en attrition, depuis la Révolution tranquille, connaît en même temps une croissance, mais fantastique, des gens qui ont envie de se mettre au service de l'Évangile. C'est paradoxal, non?
C'est paradoxal, je suis d'accord avec vous. Et quand on regarde ça en 2010, c'est intéressant de voir, oui, comment est-ce que l'advenir dans la foi adulte, fait en sorte qu'il y a une prise en charge de son cheminement personnel et comment est-ce que, à travers justement toutes ces responsabilités qui sont confiées, il y a ce déploiement et ce cheminement,
oui,
d'advenir comme chrétien, comme chrétien,
témoin, finalement,
témoin,
oui,
et maturé dans le cheminement
tout à
de
fait.
La foi.
Au fond, c'est quand on sort du christianisme sociologique,
sociologique,
pour le dire autrement.
Tout à fait.
Si ça n'est plus automatique,
exact,
d'être chrétien,
oui,
tout à coup, ça commence à intéresser des gens qui ont envie de le prendre en main de façon plus personnelle, plus autonome, plus adulte.
Et par contraste, là, on peut voir les déplacements qu'il va y avoir par rapport à ce christianisme sociologique et le fait que des chrétiens et des chrétiennes se prennent en main.
Tout à fait.
Se prennent en main.
Ah, c'est très intéressant, d'autant plus que, des laïcs, on fait pas de présidence d'Eucharistie, nous. En fait, les sacrements appartiennent en propre au ministère presbytéral. Que pouvions-nous faire d'autre que le service de l'intelligence de la foi? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service de l'intelligence de la foi avant, mais on ne pouvait faire que cela, finalement. Et tout cela, c'est le « que » n'est pas du tout réducteur, mais au contraire, il me semble que ça répondait bien, justement, à un besoin sociologique de l'Église comme telle, d'avoir des gens qui se mettent au service d'une intelligence de la foi de façon plus marquée, je dirais.
Je disais tout à l'heure, dans les années 80, au début des années 80, ces personnes, ces femmes qui faisaient route avec leur enfant à la découverte de Jésus, ce goût s'est creusé en ces personnes pour aller plus loin. Plus loin dans les études, plus loin,
oui,
dans l'action.
Oui.
Ce que vous faites voir et apparaître, ça a été une des portes d'entrée,
oui,
par laquelle ces personnes se sont faufilées,
oui,
pourrions-nous dire,
oui,
et elles ont été prises au jeu. Quel jeu? Celui de tomber en amour avec la parole de Dieu,
oui,
avec la Bible, avec les études, les découvertes, et cela est venu alimenter et nourrir, si vous me permettez l'expression, leur action pastorale.
Parleriez-vous de vocation, Sylvie?
Si je regarde des hommes et des femmes laïcs qui, depuis 40 ans, il y en a, se sont donnés littéralement à cette mission de l'Église, si cela n'est pas une vocation, Il y a tellement eu de sacrifices qui ont été faits par tant de personnes, pas seulement ces femmes-là qui sont en pastorale, par leurs maris, leurs enfants. Souvent, ce fut des projets de famille, même si le mari et les enfants n'épousaient pas le projet de la même manière, ils ont prêté leur épouse et leur mère.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, dans ce sens, c'est très profond comme engagement.
Mais, Sylvie, moi, j'ai vu des remises de diplômes au diocèse de Saint-Jean avec des femmes dont le mari et les enfants étaient là, et le mari me dire, c'est toujours à mes parties de travail que ma femme venait. C'est la première fois que c'est moi qui l'accompagne à une fête où c'est elle qui est gratifiée. Et Francine, si tu savais comme je suis fière, il y avait vraiment quelque chose là, et une solidarité des familles. Je dis « il y avait », c'est certainement encore.
Alors, ça a été vrai l'année dernière. Nous avons eu une étudiante à l'Institut pastoral qui s'est méritée la médaille du gouverneur général.
Oui.
Et son mari, écoutez, il ne touchait pas à terre. Vous vous souvenez?
Oui.
Il était tellement fier de sa femme.
Oui.
Et je le comprends parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui était tellement fier de sa femme.
Oui.
Dans ce sens de cette implication qui, des fois, n'est pas toujours comprise des proches.
C'est sûr, on est dans une période où on déserte massivement l'Église, et puis là, chérie, pourquoi tu t'embarques là-dedans?
La question, elle est bonne. Hein?
D'accord.
La question,
donc,
elle est bonne.
Donc, on parle toujours des années 90, Sylvie. Alors, beaucoup de gens impliqués et le vent dans les voiles.
Le vent dans les voiles, mais on peut soupçonner les problèmes qui apparaissent. Hein?
Oui.
On vient d'en partager plusieurs.
Oui.
On les a nommés, là.
Oui.
Mais en même temps, pour beaucoup d'agents et agentes de pastorale laïque, il y a eu une figure importante dans leur parcours. Et souvent, ça a été un ami qui était prêtre, un ami qui est diacre, un ami qui est évêque. Et ces personnes-là, j'en ai eu dans ma propre histoire des hommes, des ministres ordonnés qui m'ont aidé à approfondir la foi, à même l'action pastorale.
Oui.
Et ces personnes-là m'ont soutenu, m'ont prêté des livres, m'ont écouté, ont entendu des fois mes questions. Et quand je le rapporte à mon expérience, je me fais un peu porte-parole.
Oui, oui.
Parce que je l'ai entendu ailleurs aussi, une chance qu'il y avait tel prêtre pour m'aider, parce que je ne serais plus là aujourd'hui.
Il y a eu des complicités.
Et il y en a encore.
Fantastique. Et des femmes, enfin, dans d'autres diocèses certainement aussi, mais à Saint-Jean-Longueuil, les années 90, ce sont les années où il y a eu des femmes qui avaient, elles, la responsabilité de la communauté chrétienne.
Oui.
Avec ce qu'on appelait des prêtres modérateurs. Oui. Qui desservaient, peut-on dire, deux ou trois paroisses. Et chacune de ces paroisses-là avait comme responsable et donc comme ministre non ordonné, mais en charge.
Puis il y a eu des hommes aussi, des hommes laïcs à qui a été confié aussi ce type de responsabilité. Et ça dépendait beaucoup, je dirais, des évêques et des églises locales. C'était leur responsabilité aussi de mettre en œuvre des modèles qui puissent répondre à la fois de la mission de l'Église et à la fois des besoins des communautés.
Donc, les années 90, somme toute, ce sont encore de belles années.
Ça a été l'année de la profondeur des convictions, hein? Les
oui.
convictions mises à l'épreuve, la richesse d'une vie spirituelle aussi.
Oui.
Mais dans les années 90, il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont quitté.
Ah oui?
Pour plusieurs raisons, j'imagine. La plupart des chercheurs vont dire qu'effectivement, il y a eu plusieurs départs.
Donc, un essoufflement, vous diriez, de l'engagement des laïcs en pastoral?
Je n'ai pas les données pour pouvoir répondre de manière affirmative, mais je sais qu'il y a une recherche qui est en train de se mettre en forme, et c'est la question de cette recherche. Des chercheurs de deux ou trois universités à l'heure actuelle démarrent cette recherche. Regardez, pourquoi, entre engagement et désengagement, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais.
Alors, sous la responsabilité de M. Robert Magé, l'Université Laval,
oui.
et de notre collègue Sophie Tremblay,
ah, oui.
ici à l'Institut pastoral, cette recherche est en train de se mettre en œuvre.
D'accord. Parmi les facteurs qui ont amené certains laïcs à quitter le service pastoral, est-ce que c'est possible qu'il y a eu un certain désenchantement à cause du fait qu'il y a eu quelques documents romains, il me semble, quand je dis romains, je veux dire émanant du Vatican,
La publication de certains documents à la fin des années 90 a été reçue difficilement pour les laïcs dans certains milieux. Ces politiques de Rome visaient à réencadrer l'action pastorale des laïcs en situant différemment l'articulation des ministères. Peut-être est-ce un facteur qui est à considérer pour justifier le départ d'agents et d'agentes de pastorale. Et en même temps, vous savez, il y a la vie qui est là.
C'est sûr.
Et à même l'expérience sur le terrain, il y a aussi des signes qui est extrêmement encourageant et des personnes sont demeurées.
Oui.
Et ça dépend toujours aussi des ecclésiologies qui sous-tendent
oui,
ces actions.
Et des collègues avec qui ces gens-là travaillent.
Les complicités
mais,
et
voilà.
Les fondements.
Mais c'est vrai aussi, Sylvie, dans les documents romains, je me souviens... précisément, entre autres, de décisions concernant le droit de faire l'homélie pour des femmes ou encore l'interdiction de proclamer l'Évangile, même si c'était elle qui faisait l'homélie. Ce genre de préoccupations visant à encadrer, peut-être que, je ferai une hypothèse, moi, c'est pas tellement les décisions de ces documents-là le problème. Les gens pouvaient avoir, comme moi, la naïveté de croire que l'Église allait changer rapidement. Voyez, ça avait été tellement extraordinaire les années 70-80, et voilà un son qui chante sur une autre gamme que la chanson que tout le monde chante, voyez. Et il y a eu comme une déception, je crois, ou un désenchantement. Simplement dans le constat que, oui, ça va pas si vite qu'on pense, et ça freine pas ici, mais ça peut freiner ailleurs.
Les chercheurs auront à considérer cette piste et ce facteur, et en même temps, n'est-ce pas aussi dans d'autres sphères? On arrive à la fin des années 90, ça se passe dans un environnement et dans un contexte social qui est plus grand que celui seulement ecclésial.
Oui, c'est vrai.
Et ça, je pense qu'on ne peut pas ne pas considérer tous ces éléments-là.
En effet.
Pour
oui,
mettre ensemble,
grandes...
qu'est-ce qui se passe aussi?
Oui, dans les grandes sociétés aussi,
dans les
il y a
grandes
eu des backlash,
sociétés,
des,
voilà.
Oui, la montée de certaines résistances à l'augmentation des femmes en milieu de travail, des choses comme ça.
Et ça, c'est important de pouvoir c'est le
vrai.
Nommer et le remettre en perspective,
tout
parce qu'il n'y a pas un élément qui vient seul.
Alors, bon, on a été tout le temps là au 20e siècle, Sylvie. Vous savez que c'est le siècle dernier?
C'est vrai.
Alors, c'est de ma faute. Arrivons donc au 21e siècle.
Oui, les années 2000, hein, c'est récent, alors on n'a pas cette mise à distance qui va nous permettre de voir les choses différemment, mais les années 2000, elles ont été témoins de la mise en chantier des réaménagements pastoraux à peu près partout au Québec, et ça a été l'émergence de nouveaux besoins, des nouvelles modalités, des priorités, et favoriser le travail d'équipe.
Okay. Ce qu'on appelle les réaménagements pastoraux, c'est le fait de regrouper des paroisses en une seule plus grande, c'est ce genre de choses.
Hein. Effectivement.
C'est lié assez directement aussi à la diminution vraiment radicale du nombre de prêtres.
Et ça a été relié aussi au nombre décroissant d'agents et agentes de pastorale aussi au Québec. Le vieillissement a été un autre facteur. Et l'autre élément qu'on ne peut pas ignorer, c'est celui des finances.
Oui.
Et ça, c'est majeur aussi que l'élément des finances. On voit bien comment est-ce qu'il y a cette diminution des pratiquants et des pratiquantes dominicales. Tout ce qui se passe concernant la dîme, qui était une source de revenus importante et qui aujourd'hui a fortement diminué. Et le vieillissement des bâtisses aussi,
oui.
qui ont demandé beaucoup, beaucoup d'investissements. Il y a donc plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu et qui fait en sorte que ces réaménagements pastoraux, qui probablement à la lumière de l'histoire sera relu un jour comme un chantier important dans l'histoire de l'Église,
oui.
mais il y a eu vraiment dans les années 2000 un appauvrissement de l'Église.
Donc c'est pas pour faciliter évidemment l'embauche de laïcs, il faut quand même payer. Même si on sait que c'est des salaires d'église, là, modestes.
C'est très modeste. Les personnes ne vont pas là pour les salaires. On l'entendait souvent et par expérience, nous le savons.
Bien sûr.
Mais en même temps, quand je parle de l'appauvrissement de l'Église, il y a aussi toute une autre ecclésiologie qui se met en forme.
Oui.
Effectivement, une église qui se reconnaît comme étant pauvre ne peut plus agir de la manière dont elle a agi dans des circonstances où le modèle était différent. La prise de conscience, c'est de voir que cette chrétienté s'est vraiment effondrée. Les années 2000, c'est d'être témoin d'une déchristianisation fulgurante. Elle était déjà, je dirais, en gestation.
Oui.
Les sociologues vont vous le dire largement. Mais là, nous sommes témoins de cette déchristianisation. Les points de repère identitaires au Québec, on l'a vu et nous le verrons peut-être encore plus, la reconnaissance du pluralisme des cultures, des religions, cela n'est pas sans incidence sur l'action pastorale et la place des laïcs aussi en pastorale.
Est-ce qu'il y en a encore des laïcs en pastorale?
Oui.
Ben oui, vous étiez 380 au colloque d'octobre.
Il y aurait au Québec au-delà de 700 agents et agentes de pastorale qui sont mandatés par leur évêque. La moyenne d'âge, elle est autour de 50 quelques années, majoritairement des femmes.
Est-ce que ça veut dire que, bon, dans les années 2000 et maintenant... ça peut se développer autrement, les ministères laïcs?
À l'heure actuelle, ils sont en train de se développer différemment.
Oui.
Les modalités qui ont répondu des exigences et des besoins des époques
oui.
de 1970, 80, 90, 2000, on voit bien qu'il y a des déplacements au niveau ecclésiologique qui se font. Maintenant, nous sommes dans un contexte et dans une ecclésiologie d'évangélisation.
Oui.
Partout au Québec, c'est l'expérience qui est là et le fait même d'être agent et agente de pastorale dans ce contexte d'évangélisation a une incidence sur la manière dont s'exerce ce ministère des laïcs. Ça ne peut pas faire autrement.
J'imagine qu'il reste des choses comme la catéchèse, ces choses-là qui étaient déjà là, mais il y a de nouvelles manières de...
Alors, regardez tout le volet de l'accompagnement aujourd'hui. Aider des personnes à cheminer au niveau de la foi.
Oui, d'accompagnement spirituel.
L'accompagnement spirituel, effectivement. Vous allez me dire, l'Église a toujours accompagné. Effectivement. Là, nous sommes dans d'autres modalités. On s'aperçoit, à cause de la postmodernité, que la manière d'accompagner des hommes et des femmes et des enfants, dans la catéchèse, dans l'évangélisation, dans l'éducation de la foi, les paramètres ne sont plus les mêmes. L'expérience est mise à contribution, les parcours sont proposés, et c'est vraiment l'idée d'un cheminement. Et ça, ça a une incidence aussi sur la manière de faire pastoral.
Bien sûr, puisque ça n'est plus le groupe social en tant que tel qui soutient la foi de chacun. C'est presque de la pastorale individuelle, oui, je dirais.
Oui.
C'est un peu exagéré, mais...
Pastorale de l'engendrement, effectivement. La pastorale de l'engendrement. Alors, ce cheminement, tout ça, alors c'est toute une autre manière de faire de la pastorale.
En
plus aussi, il y a tout le dialogue pastoral à l'heure actuelle. Combien de diocèses sont en train de former leur monde et les agents de pastorale au dialogue pastoral? Ça ne peut pas faire autrement que d'avoir une incidence. Le fait que la catéchèse, l'éducation de la foi, se fait dans les paroisses. Il se fait des choses extraordinaires dans les paroisses.
Oui.
Mais en même temps, ça se fait aussi au hockey, ça se fait à l'épicerie, ça se fait au soccer, et mettez-le où vous le voulez,
oui.
Parce que ces jeunes parents discutent ensemble la manière dont se fait la catéchèse. En bien des milieux, c'est ce qui se passe.
Oui.
Et ils vont être présents à leur enfant d'une manière peut-être un peu différente de la manière dont vous et moi avons
oui.
été présentes aux enfants.
Bien sûr, je comprends. Et donc, vous dites que ce qu'on a connu continue en partie, mais
il y a du neuf.
Pendant ce temps-là, il y a du neuf,
il y a du neuf qui émerge.
J'allais dire à côté, mais ce n'est pas à côté.
Non. Il y a du neuf.
Oui.
Juste un élément pour illustrer, si on regarde les bénévoles.
Oui.
Les bénévoles, il y a des jeunes. Ces jeunes sont beaucoup plus instruits que jadis, risquent d'être
oui.
beaucoup plus formés.
Ils sont scolarisés, en
sont
effet.
Sont beaucoup plus ouais. scolarisés, vous avez
ouais.
exactement.
Oui, puis le seul fait d'avoir décidé de faire ça dans une société
c'est un choix.
Où leur propre génération...
C'est un choix.
Ouais,
un
ouais.
choix qui, vous savez, engage les parents, ne serait-ce que dans la gestion de leur agenda.
Bien sûr, entre conduire les enfants au hockey et puis aller faire l'épicerie, c'est vrai. Alors, vous diriez, Sylvie, pour conclure, qu'il y a l'émergence donc de quelque chose qui vous donne espoir d'un neuf...
Moi, oui. beaucoup parce que c'est l'horizon de cette nouvelle manière, de ces manières qui apparaissent, et ça n'enlève en rien les souffrances et les culs de sac. Hein, oui, ça n'enlève en rien les tensions encore, à fait. Mais en même temps, dans une ecclésiologie qui est beaucoup plus pauvre, l'Église qui est annonciatrice et signe du royaume de Dieu.
Ah oui.
Sous cet horizon-là, le travail des agents et des agentes laïques de pastorale au Québec prend une autre couleur. Et là est mon espérance pour les années 2010.
Bien sûr.
Et ça, si c'est possible aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes dans les années 70, 80, 90, 2000 ont semé, ont travaillé, ont contribué en complicité avec d'autres ministères aussi, à faire bouger les choses et que le christianisme et que Jésus-Christ puissent être significatifs pour aujourd'hui.
Sylvie Latreille, merci beaucoup de nous rappeler les signes d'espérance aussi bien que les signes d'une belle histoire, d'une histoire récente, dynamisante aussi et porteuse d'avenir. Le passé est porteur d'avenir.
C'est une belle histoire d'amour.
Oui, en effet. Et bravo à l'Église du Québec qui sait innover, même dans la difficulté, je dirais.
Tout à fait. Et à l'audace des évêques qui encouragent et croient à ce ministère.
Sylvie Latreille, merci beaucoup. Et merci à tous ces gens dont on a parlé pendant une heure, tous ces gens qui travaillent en pastorale, ces femmes, ces hommes qui travaillent actuellement en pastorale ou qui ont travaillé en pastorale. Merci d'avoir été là, parce que peut-être que nous n'y serions pas si vous n'aviez pas été là. Merci Sylvie.
Au revoir.
Invité aujourd'hui était un professeur de l'équipe de l'Institut de pastoral, Sylvie Latreille. Au microphone, c'est Francine Robert. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission de la série « Croire d'hier à demain » produite pour Radio Ville-Marie par l'Institut de pastoral des Dominicains dans le cadre de son 50e anniversaire. Je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie. À bientôt.